Nous allons passer donc aux questions et réponses. Vous connaissez la règle, fermez vos téléphones, mettez-les sur vibreur. Et à toutes les personnes qui vont prendre la parole, je vous demanderai de bien vouloir les mettre sur vibreur ou de les fermer. Nous allons commencer par Goma et nous allons prendre trois questions tout de suite de Goma. Première question, s'il vous plaît.
Ok, right.
Bonjour, c'est Gina Moulumba pour le compte de Michapi Voice TV. Ma question s'adresse à M. Mounoubaï. La société civile de Béni a déclaré deux journées ville morte pour manifester ce qu'elle qualifie de la passivité de la brigade d'intervention dans la ville de Béni, ou plutôt le territoire de Béni. J'aimerais savoir quelle est votre lecture par rapport à cette action qu'a entrepris la société civile de Béni.
Veuillez fermer ce téléphone là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, merci pour la question. D'abord, je voudrais vous informer que le vendredi dernier, le commandant de la force de la MONUSCO ainsi que le commandant de la brigade d'intervention se sont rendus à Béni où... ils ont rencontré les autorités locales et la société civile pour échanger avec eux. En ce qui concerne la MONUSCO, nous comprenons très bien les attentes et l'impatience de cette population, mais il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Face à cette attente et à cette impatience, je crois qu'il faut opposer un réalisme et surtout... leur fait comprendre qu'il y a un besoin d'une bonne planification. Je pense que le message est passé parce qu'au niveau des autorités de Béni, ils ont compris la position de la MONUSCO. Je pense aussi que la société civile de Béni a compris la position de la MONUSCO. La situation n'est pas aussi alarmante que vous le dites, puisque dans cette ville, nous continuons à circuler normalement. Nous avons l'appui des autorités et nous continuons à travailler normalement. Donc je pense que la situation n'est pas aussi alarmante. Il n'y a rien qui ne puisse être réglé par les discussions et les négociations. Je pense que ces discussions ont été très utiles et la situation aujourd'hui n'est pas aussi alarmante qu'on le pense. Nous prenons la deuxième question.
Paterne Inga de AP. J'ai deux petites préoccupations adressées au lieutenant-colonel Bass. La première, vous savez que nous avons des frères, nous avons des sœurs dans la MONUSCO qui travaillent. Nous sommes des fonctionnaires de l'ONU. Aujourd'hui, les internationaux ou experts de la MONUSCO sont mieux sécurisés que les nationaux, surtout à l'est de la RDC. Quelle stratégie allez-vous prendre aux nationaux de la MONUSCO compte tenu de ce qui se passe à l'est avec les enjeux de la MONUSCO qui commencent à tuer les gens dans la ville de Goma? La deuxième préoccupation, c'est de demander quelle est la réaction de la MONUSCO vis-à-vis aux déclarations faites par un des commandants des Mai Mai dans le Walikale sur les antennes de Kivuane, disons, je répète, la brigade d'intervention de l'ONU en RDC sera notre S4, c'est-à-dire notre logisticienne en armes et autres. Merci.
Oui, merci pour vos deux questions. Je commencerai par la première. D'abord, pour vous dire qu'il faut faire aucun distinguo entre ceux qui travaillent au sein de l'Organisation des Nations Unies. La MONUSCO est une famille et une seule. Évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que la contribution qu'apportent les nationaux au fonctionnement et, si vous voulez, les résultats positifs
engrangés par la MONUSCO sont le fait de tout le personnel, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient internationaux. Donc je pense qu'il ne faudra pas faire cette dichotomie au sein du personnel de la MONUSCO. Quand le moment se présente, quand le danger est présent, je pense que nous avons une approche qui prend en compte tout le personnel des Nations Unies travaillant sous la responsabilité des Nations Unies. Donc je pense qu'il faudra faire affaire d'amalgame ou en tout cas créer une scission au sein de cette famille onusienne qui jusqu'à présent, en mettant leurs efforts en commun, arrive un temps soit peu à apporter un peu de réconfort aux populations civiles. Pour ce qui concerne maintenant votre deuxième question, qui concerne un peu, parce que vous avez parlé de la MONUSCO qui tue des gens, je pense qu'il faudra savoir raison garder. Dans toute activité humaine, évidemment, des accidents arrivent. Et vous n'êtes pas sans l'ignorer. Et vous savez très bien que la MONUSCO n'est pas là pour tuer les Congolais. Bien au contraire, nous sommes avec les Congolais, pour les Congolais, et nous avons des casques bleus, qu'ils soient civils comme militaires, qui perdent leur vie dans leur contribution à l'effort global de restauration de la paix et de protection des populations civiles. Donc je pense que ce message que vous essayez de faire passer n'est pas adéquat, parce qu'il ne traduit pas la réalité. Certes, un accident a eu lieu à Birere il y a quelques jours, et nous exprimons profondément nos regrets concernant cet accident-là et présentons nos condoléances à toute la famille, aussi bien biologique que universitaire, à laquelle appartenait, si vous voulez, cet étudiant-là. Donc, ceci étant dit, je passe un peu aux commentaires que vous avez semblé relater concernant un chef Maïmaï, je crois, si c'est bien ça, disant que la brigade sera notre escadre, ça veut dire la brigade sera, si vous voulez, notre source d'approvisionnement logistique pour qu'ils continuent leurs activités négatives. Je pense que vous-même, vous avez la réponse, parce que je ne pense pas que, d'abord, les troupes onusiennes qui viennent ici sont des troupes aguerries. Ne pensez pas que les troupes arrivent ici et commencent à apprendre à faire les opérations. Donc je dis tout simplement que je ne commente pas là-dessus, mais je peux vous assurer que notre détermination est profonde, notre engagement est sans mesure, et nous sommes là pour remplir notre mission telle que donnée par la résolution 2098, et nous le ferons vaille que vaille pour le bien des populations civiles de la région de la République démocratique du Congo. Et à ce titre, d'ailleurs, nous attendons votre contribution en tant que journaliste pour nous aider à accomplir ou en tout cas à parachever cette mission qui nous a été confiée.
Merci. Nous prenons encore une question de Goma avant de revenir à Kinshasa.
Merci, c'est Aline Ngwe pour le compte de Top Congo FM. Ma question s'adresse aux responsables humanitaires. On signale l'arrivée de réfugiés dans le territoire de Nyiragongo et de Rutshuru. Est-ce que le HCR et la MONUSCO sont-ils au courant? La deuxième question, malgré la présence de toutes les ONG humanitaires et le système des Nations Unies ici à Goma, on signale plus de 100 cas de malnutrition sévère parmi les enfants de déplacés, catégorie qui devrait être prioritaire. Comment la MONUSCO explique-t-elle cela? Merci.
Oui, vas-y, Edou.
Concernant la première question, vous parlez de réfugiés, donc c'est-à-dire de personnes qui viennent, qui ne sont pas congolais, je suppose. Je n'ai pas d'informations sur des réfugiés qui seraient arrivés dans la zone de Nyiragongo. Il faudrait que je me retourne vers le collègue du HCR pour en savoir un peu plus. Alors, la deuxième question, je ne l'ai pas bien suivie, si elle peut juste répéter, je n'ai pas bien entendu la deuxième question en fait.
S'il vous plaît, Goma, Top Congo, est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît?
Oui, la deuxième question, c'est de savoir, en fait, malgré la présence des ONG humanitaires, des systèmes des Nations Unies, ici à Goma, on signale plus de 100 cas de malnutrition sévère parmi les enfants. C'est vrai, c'est ces enfants qu'on devrait d'abord bien nourrir. Et comment la MONUSCO peut-elle expliquer cela? Les humanitaires plutôt.
Ok, humanitaire. Nous allons passer peut-être la parole au PAM qui va vous parler de cela.
Il y a un micro ici. Il y a un micro là.
Oui, bonjour. Je voudrais d'abord clarifier quelque chose. La MONUSCO ne s'occupe pas de faire des distributions alimentaires ni de soigner les enfants malnutris. Ce sont l'UNICEF et le PAM qui s'occupent de ce volet-là, qui sont les agences humanitaires des Nations Unies. Je suppose que vous parlez d'enfants qui sont dans les camps déplacés, parce qu'on vous dit 100 enfants à Goma, il y en a beaucoup des enfants malnutris, et énormément, enfin, qui sont pris en charge soit par l'UNICEF, soit par le PAM. Il faudrait que vous soyez un peu plus précis sur où sont ces enfants. S'ils sont dans des camps de déplacés, il y a des centres de traitement de la malnutrition. Si effectivement ils sont diagnostiqués comme malnutris, ils sont systématiquement pris en charge. Voilà, il y a aussi des centres de nutrition à travers la ville, donc il faut qu'ils se rapprochent de ces centres de nutrition. Mais si vous pouviez être un peu plus précise et me dire où sont ces 100 enfants, ce serait utile. Merci.
Merci beaucoup.
Dans les cas des déplacés.
S'ils sont dans les camps de déplacés, tous les camps de déplacés, il y a des centres de suivi de la malnutrition où les enfants sont pris en charge. Donc s'ils sont réellement malnutris, ils seront pris en charge. Forcément. Voilà.
Voilà, merci. Nous revenons donc à Kinshasa. Nous prenons la première question sur la droite. Un micro sur la droite. Levez la main qu'on vous voit.
Merci. Kaimé pour RTGA. Monsieur Mounoubaï, par rapport à la situation à Béni, vous disiez tout à l'heure que la MONUSCO, la brigade d'intervention et consorts ont rencontré la société civile à Béni. Peut-on dire que cette réunion a accouché d'une souris, car les mots d'ordre de la ville morte est maintenu, mot d'ordre qui est d'ailleurs scrupuleusement respecté. Aujourd'hui, même le plus petit de tous les Congolais veut voir un feu de déluge sur le M23. Monsieur Basqui à Goma nous dira certainement qu'il faut laisser la question militaire aux experts, lui et experts, qu'ils nous disent qu'est-ce qui bloque dans tout ça. Merci.
Non, je ne dirais pas que la réunion a accouché d'une souris, parce que la société civile a lancé un mot d'ordre pour une ville morte. Les autorités ont été très claires à ce sujet. Ils n'empêcheront personne d'observer ce mot d'ordre de ville morte, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une violence contre ceux qui ne veulent pas respecter ce mot d'ordre de violence. Ce mot d'ordre de ville morte, je ne tire pas les conclusions. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une vie aujourd'hui dans la ville de Goma et que nos opérations continuent normalement. Deuxième question, RTNC.
Merci. Je venant vous dire ça pour la RTNC. Je m'adresse au bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il y a cela 2-3 semaines, une fausse alerte a été lancée comme quoi il y aurait publication du rapport du Bureau des Nations Unies sur les droits de l'homme. Et depuis un certain moment, on n'a pas eu ces rapports. Qu'est-ce qui l'a bloqué? Peut-être que vous attendiez l'arrivée du haut commissaire, je ne sais pas, c'est au Bureau des droits de l'homme de le dire. Au colonel, il a donné un message qui m'a peut-être, une information qui m'a peut-être échappé, qui est pourtant importante. Le colonel déserteur de FRDC qui a été appréhendé avec quelques éléments, appréhendé et non arrêté, je veux qu'il revienne un tout petit peu. Je voudrais un peu en savoir quelque chose. Merci.
Merci. Le colonel va répondre à la deuxième question. Concernant la première question, ce n'est pas une fausse alerte. On vous a annoncé qu'un rapport va être publié. Mais comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé ici, il y a un protocole à suivre lorsqu'on sort un rapport de ce genre. Le rapport est rédigé conjointement par le Bureau des droits de l'homme à Kinshasa et le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève. Le rapport est porté à la connaissance des autorités nationales qui doivent avoir le temps de le lire et de réagir. Et en ce moment, on va le porter sur la place publique parce que nous n'aimerions pas que le public et le gouvernement prennent connaissance de ce rapport en même temps. Parce qu'on ne veut pas, cherche pas à mettre le gouvernement sur la sellette. Ce n'est pas ça notre objectif. Donc, le rapport suit normalement son cours et il sera publié. Mon colonel.
Merci pour votre question. Je voudrais tout simplement rappeler que la semaine dernière, nous avions ici évoqué le cas de désertion du colonel Bissi Maza, qui était commandant par intérim du secteur de Béni, et qu'il avait fait défection avec un certain nombre d'éléments. J'ai parlé tout à fait d'appréhension de quelques éléments qui étaient en compagnie du colonel Bissi Maza. Parce que suite à cette défection-là, l'armée congolaise a lancé ses troupes à la traque de ce colonel, et effectivement, des combats ont eu lieu, et certains éléments ont été capturés par les forces gouvernementales, et aujourd'hui, les effectifs qui suivaient le colonel Bissi Maza ont connu un taux d'attrition assez élevé, et la traque se poursuit contre cet officier déserteur sous la surveillance étroite aussi du contingent bengladais, du premier bataillon du contingent bengladais déployé en Ituri pour effectivement prendre toutes les mesures idoines afin d'assurer la protection des populations civiles car des dégâts collatéraux ne sont pas à exclure. Mais nous restons toujours vigilants et continuons à suivre cette situation et à apporter notre soutien indéfectible aux troupes gouvernementales qui sont à la recherche de cet officier déserteur.
Merci. Nous prenons une troisième question sur la droite. Oui, derrière.
Merci. C'est Simon Kinsangala pour le compte du journal Demain le Congo. J'ai une question à poser au porte-parole militaire. Il y a la récente défection du colonel Bissi Maza. C'est une preuve en soi pour lui de quoi? Merci.
Vous pouvez répéter votre question si vous
La pouvez, question c'est comment est-ce que vous expliquez la défection aujourd'hui parmi les éléments qui ont suivi le colonel Samaza?
Je n'ai pas d'explication. Vous savez, moi en tant que militaire, d'abord je considère tout simplement que la désertion est un cas exceptionnel et je ne vais pas justifier les raisons pour lesquelles ce colonel a fait défection parce que je ne les connais pas, mais je pense que rapprochez-vous de l'armée congolaise qui pourra peut-être vous en dire plus. Mais une chose est sûre, c'est que dans toutes les armées du monde, il y a deux types de désertion. Il y a la désertion en temps de paix et la désertion en temps de guerre. Et pour le deuxième cas, des circonstances aggravantes sont mises sur le compte du militaire déserteur parce que, tout simplement, la situation a une autre tournure, a une autre connotation. Mais je dis tout simplement que la désertion est quelque chose qui est prévu, mais qui ne se justifie pas quand on a un esprit républicain et qu'on sait pourquoi on est entré dans l'armée. Maintenant, rapprochez-vous peut-être de l'état-major de l'armée congolaise ou du porte-parole militaire de FRDC qui pourra peut-être vous en dire plus.
Merci. Passons sur la gauche. Première question, s'il vous plaît. Derrière vous. Derrière.
Oui. Je m'appelle Honoré Mbenga. Je suis journaliste de l'agence presse associée APA. Ma question s'adresse au porte-parole militaire, le colonel Bass, à l'allure où on voit l'augmentation des réductions des hommes de groupes armés auprès des forces de MONUSCO, est-ce qu'ils seront réintégrés au sein des forces armées congolaises? C'est ça ma question. Merci.
Oui, je vous remercie pour votre question. Je ne saurais y répondre de manière directe, mais ce que je peux vous dire, c'est que si nous avons enregistré autant de redditions, ceci est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la traque ou en tout cas les opérations qui sont menées de manière récurrente contre ces groupes armés les poussent à la reddition. Mais aussi, notez que ces groupes armés font beaucoup reddition auprès de nos bases opérationnelles parce que quelque part aussi, ces éléments armés ont une forme de confiance dans les bases opérationnelles de la MONUSCO et viennent, une fois qu'ils sont fatigués, faire reddition. Mais c'est aussi l'occasion d'encourager beaucoup d'autres à faire reddition
auprès de nos bases opérationnelles ou auprès des FRDC, parce que vous savez que cette activité-là ne mène nulle part. Il est préférable que ces gens réintègrent la société civile et viennent, comme tout le monde, participer à développer d'abord la paix, mais aussi à développer le pays qui a besoin de tous les bras. Donc je pense que nous saluons ces efforts, nous encourageons ces défections pour qu'enfin la paix puisse revenir en République démocratique du Congo, pas seulement à l'Est d'ailleurs.
Nous prenons une deuxième question.
Patrick Mbanga pour l'expression. Je poserai une question sur le colonel. Mon colonel, vous avez toujours insisté que les Nations Unies n'ont pas une armée. Et face à tout ce qui se passe au Grand Nord, dont je prends la ville de Beni et ses alentours, est-ce qu'il ne sera pas possible d'appliquer le chapitre 7 pour qu'on puisse quand même rassurer la sécurité de la population? Je reviens à Kinshasa, à M. Edoumou. Vous nous avez dit l'autre fois que vous allez nous ramener des informations sur les réfugiés et les déplacés au Nord Kivu, mais à ma grande surprise, vous ne me donnez pas toujours des informations sûres. Donc j'aimerais plutôt, si possible, pouvoir nous renvoyer des informations avec la question relative de Nyiragongo et Rutshuru, parce que cette question est plus d'urgence pour la presse.
Merci. Mon colonel.
Merci pour cette question. Juste pour vous rappeler qu'effectivement, la nouvelle résolution nous donne mandat d'imposer la paix. Donc ça veut dire que nous sommes déjà au niveau que vous venez d'évoquer. Vous avez raison de poser le problème de l'insécurité dans le territoire de Beni, je dirais même plutôt vers l'axe Mbao et Kamango et un peu vers Erengeti, où effectivement depuis très longtemps nous avons vu que les rebelles de l'ADF Nalu, qui comme vous le savez sont un groupe étranger d'origine ougandaise, sèment la terreur auprès des populations civiles. Mais aussi depuis un certain temps, nous sommes en train, en partenariat avec les forces gouvernementales, en train de prendre des actions pour mieux sécuriser les populations civiles, car récemment, vous savez, ces clashs ou ces combats ont provoqué un nombre élevé de déplacés vers nos bilots. Et depuis que ces opérations commencent, les gens commencent à rentrer petit à petit, donc ce qui veut dire que l'espoir est encore permis dans ce sens-là. Mais notre détermination et notre coopération, d'ici peu de temps, je pense, pourra apporter des fruits avec le soutien des populations civiles que nous sommes censés protéger, parce qu'il faut relever que ces populations civiles nous apportent beaucoup en termes de soutien, en termes d'adhésion dans nos actions, parce qu'elles savent aussi que les actions que nous menons de manière quotidienne et de manière récurrente concourent à leur apporter un peu plus de paix, un peu plus de sécurité.
Merci. Edoumou.
Alors, je pense qu'il est important à Patrick et à tous ceux qui sont intéressés par cette question, d'en fait préciser la question. Si vous voulez juste les chiffres, nous les avons. Alors, il faut d'abord, concernant les chiffres de déplacés internes, la province du Nord Kivu est celle qui l'a plus touchée par cette problématique. Nous avons un peu plus de 960 000 personnes déplacées dans le Nord Kivu, près de 150 000 autour d'Angoma et ses environs. Alors, en termes de réponse humanitaire, je pense que vous êtes ici chaque semaine, nous vous donnons en tout cas autant que nous pouvons les informations que nous avons, que ce soit au niveau des agences des Nations Unies ou au niveau des ONG nationales, internationales, toute une série d'activités sont mises en œuvre. On a parlé de malnutrition tout à l'heure, on parle d'éducation, de sécurité alimentaire. Je pense que s'il y a des questions spécifiques, ça avait peut-être une préoccupation particulière, on peut toujours la répondre, mais ça c'est un aperçu un peu général. Alors, concernant les réfugiés, il n'y a pas de réfugiés dans la zone de Nyiragongo. En tout cas, nous n'avons pas d'informations comme quoi il y aurait eu un afflux récent de personnes qui seraient arrivées dans cette zone. Quand on parle de réfugiés, on parle de personnes qui ont traversé une frontière. Donc, il faut aussi être précis là-dessus. Si vous parlez de personnes déplacées internes, ça, je viens de vous donner les chiffres, mais si vous parlez de réfugiés, nous n'avons pas d'infos comme quoi il y aurait un afflux significatif, majeur ces derniers jours dans la zone de Goma.
Merci. Nous prenons une autre question derrière vous, là. Je vois une bas.
Merci. Je m'appelle Guy Roger Tchitingué pour le compte des Top Infomonde. J'ai des petites questions à poser. La première, c'est à M. Mounoubaï. Vous avez parlé tout à l'heure d'une réhabilitation partielle d'un hôpital que vous avez remis. Est-ce qu'on peut d'abord savoir quels ont été le secteur ou encore moins comment est-ce que la réhabilitation partielle a été faite? C'était quel service qui a bénéficié de cette réhabilitation de l'hôpital? Et la deuxième question, je vais la poser au porte-parole militaire. À chaque fois, on parle toujours de reddition. Il y a de ceux-là qui se sont rendus auprès de la MONUSCO, qui se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Mais jamais on est revenu pour nous dire ces gens qui se sont rendus, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'aujourd'hui, le porte-parole peut nous dire toutes ces réductions-là qui se sont faites, où en sont-elles aujourd'hui et qu'est-ce que le gouvernement ou la MONUSCO en a fait? Merci.
Merci beaucoup. Concernant la première question, il s'agit de l'hôpital de Rouyn-Collé qui est à Bounia. Cet hôpital s'occupe beaucoup des femmes qui souffrent de fistules. Donc c'est ce département spécialement qui a été, le bâtiment a été réhabilité et équipé. La MONUSCO a permis maintenant à cet aile qui s'occupe des femmes victimes de fistules d'avoir 60 lits pour recevoir ces femmes. Voilà de quoi il s'agit. Mon colonel.
Oui, merci. Concernant les redditions, vous avez posé une question très pertinente. Je peux tout simplement vous dire qu'une fois que ces redditions sont enregistrées auprès de nos bases opérationnelles, nous les remettons à la disposition de la section DD3R de la MONUSCO qui pourra vous en dire un peu plus. Monsieur Hervé est là pour répondre à cette question-là.
Merci. Quelques précisions supplémentaires. Parmi les rendus, il faut catégoriser deux groupes, un groupe de le groupe des étrangers qui sont rapatriés dans le cadre du processus que l'on appelle D2-3R, DDRRR, le premier R signifiant rapatriement. Pour ce qui concerne des rendus de nationalité congolaise, ils sont conjointement avec l'autorité congolaise dont c'est la responsabilité première, désarmés et surtout démobilisés, conjointement avec l'autorité congolaise.
Je voudrais voilà, poser la question bien qu'il a parlé.
Merci, nous prenons une question de Goma.
Je m'appelle Bishop Fundu pour le compte de la radio Télékinou à Lebo. Mes préoccupations sont adressées au lieutenant-colonel Bass, le porte-parole militaire. Qu'en est-il de l'arrivée des troupes malawites et de l'effectivité du déploiement des troupes déjà sur place au nord Kivu? Ma deuxième préoccupation est celle-ci. Comment se fera la coopération sur terrain entre la brigade d'intervention et les FARDC? Merci.
Merci pour vos deux questions. Effectivement, nous avons dit au fil des conférences de presse que la force de la MONUSCO aujourd'hui, à travers sa brigade d'intervention, a à peu près capitalisé 75% de ses effectifs qui sont présentement sur le terrain en train d'initier le travail pour lequel ils ont été déployés. Les troupes malawites, nous vous avions aussi expliqué, et donc je le répète parce que la répétition est pédagogique, les troupes malawites, le détachement précurseur du contingent, ou en tout cas du bataillon malawite qui doit entrer dans la constitution de la brigade d'intervention, cet élément précurseur composé d'environ 100 éléments est déjà sur place, est déjà en train de s'intégrer à l'état-major, est déjà en train de se déployer à mener les activités pour lesquelles elles ont été déployées. Le gros des troupes malawites est en phase de déploiement parce que nous vous avions aussi dit que les troupes malawites étaient initialement projetées en République de Côte d'Ivoire où elles étaient dans la constitution de la force des Nations Unies en RCI. Donc, ces troupes sont en train de se préparer à venir. C'est vrai qu'on comprend un peu cette impatience-là, mais rassurez-vous, puisque déjà le convoi logistique qui doit accompagner ces troupes-là a déjà fait mouvement, une partie est déjà arrivée à Goma, donc le déploiement se poursuit, et d'ici très bientôt, sans pour autant vous donner des dates précises, très bientôt, ces troupes seront sur le terrain et pourront, avec les autres contingents qui constituent la brigade d'intervention au sein de la force de la MONUSCO, pourront déjà être là et commencer le travail. Maintenant, votre deuxième question qui a trait à l'opérationnalisation, si je ne me trompe, c'est bien ça ?
Oui. L'effectivité du déploiement des troupes déjà sur place aujourd'hui.
Oui, donc l'effectivité, je pense que vous, si je vous comprends bien, il s'agit de l'opérationnalisation. Quand est-ce que ces éléments vont commencer à opérer dans la brigade du Nord Kivu? Bon, c'est vrai que...
Mon colonel, la question c'est comment ils travaillent avec les FRDC.
Ok. Mais je pense que encore une fois, il faut magnifier la coopération qui existe avec les FRDC, parce que comme vous le savez, ceci entre dans le cadre de notre mandat. Soutenir les FRDC dans les opérations. Depuis fort longtemps, nous travaillons, nous menons des opérations conjointes. Cette dynamique n'a jamais été interrompue. Nous les soutenons aussi dans le cadre de la politique de conditionnalité qui a été mise en place. Donc ça ne nous posera aucun problème parce que la brigade d'intervention n'est pas un élément isolé ou un élément à part qui doit travailler à part. Elle fait partie intégrante de la force de la MONUSCO sous un commandement unique qui est celui du général Dos Santos Cruz, commandant de la force de la MONUSCO. Par conséquent, aucun problème, aucun nuage n'est à l'horizon. Au contraire, nous encourageons cette coopération et nous pensons qu'ensemble, d'ici très bientôt, les populations du Nord Kivu pourront voir un peu de lumière, un peu plus de réconfort, un peu plus de sérénité dans leur vie de tous les jours. Notre coopération avec les FRDC est parfaite.
Oui, je reviens sur la question qui avait été posée concernant le DD3R. Je pense qu'il y a aussi un aspect qui est celui de la prise en charge des mineurs, puisque nous avons commencé par annoncer dans cette conférence de presse que des enfants ont été séparés des groupes armés. Je passe la parole tout de suite à Adi, qui est chef de la section de protection de l'enfant. Il va vous dire ce que nous faisons de ces enfants. Adi.
Merci, Monsieur Mounoubaï. Je voulais juste ajouter que les individus qui se rendent, qui ont moins de 18 ans, ça veut dire les enfants, au camp DDR, on ne les transfère pas au gouvernement. On les documente et on les donne aux partenaires de UNICEF pour recevoir des services, pour tracer leur famille afin de les réunifier et leur réinsertion sociale et économique.
Voilà. Donc on a fait le tour. Vous avez le DDR pour les enfants, pour les grandes personnes et la réunification pour les enfants. Je pense qu'on a fait le tour pour la semaine. Merci beaucoup à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct. Merci à nos collègues de Goma. Merci donc à tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine.